Ce qui m'amène à parler du nom de votre mouvement, Devenir un en Christ, je crois que c'est tout un programme. Et c'est dans ce programme que s'inscriront au mieux, me semble-t-il, les indications plus pratiques que nous aborderons dans la conférence de demain et que José Davin abordera aussi dans ses conférences de ce soir et de demain. Chaque mot « devenir en Christ » a de l'importance. D'abord, « devenir ». Il s'agit donc d'un processus, d'un chemin, d'une évolution, d'un changement progressif. Ce processus coïncide exactement avec notre vie. Il conduit d'un inachèvement vers un accomplissement et nous situer dans cette dynamique et non pas dans un état, une sorte d'arrêt sur image, où j'en suis maintenant, est-ce que je suis dans le permis ou dans le défendu. Me situer dans cette dynamique, dans ce courant, rien n'est jamais acquis, mais rien n'est jamais perdu non plus. La vie ne cesse d'aller de l'avant et de nous offrir de nouvelles chances. D'abord, l'union, l'unité de ma personne. Nous commençons tous par être passablement morcelés ou éclatés entre le corporel, l'émotionnel, l'intellectuel, le spirituel, le relationnel, le sexuel, le dire, le faire, le subir, l'agir, le passé, le présent, etc., etc., le public et le privé, unifier progressivement tout cela autour de ce centre mystérieux, inconnu de nous-mêmes, mais qui est la source de tout le reste, qui est notre « jeu intime ». Donc, voilà une première dynamique pour toute notre vie, d'unifier notre propre personne. Ensuite, l'union ou l'unité relationnelle. Notre être s'enrichit et se développe à travers nos alliances avec d'autres personnes, alliances privilégiées, famille, amis, couple et alliances plus larges de nos solidarités par cercle concentrique. Nous nous sommes unis à l'humanité entière de tous les temps. Évidemment, la qualité de ces alliances compte plus que leur nature familiale, sexuelle ou autre, et évidemment que leur nombre. Cette qualité de nos alliances n'est pas définissable a priori, mais elle se manifeste immédiatement à notre conscience de deux manières. On pourrait développer cela, mais il suffit, je pense, de le citer. D'abord, elle produit des effets de joie et de vie. Elle les produit à deux niveaux. D'abord en nous, c'est ce sentiment d'harmonie intérieure, jamais total, jamais parfait, mais quand même pas nul non plus, certaine liberté d'esprit, une paix du cœur, qui fait que nous pouvons nous dire « oui, je vais bien ». Je vais bien, ça ne veut pas dire que tout va bien. Je vais bien peut-être même dans la maladie, dans le handicap. Je peux aller bien aussi dans des situations qui seraient peut-être moralement plus ou moins discutables. Donc d'abord ce sentiment d'harmonie intérieure, et puis ensuite le deuxième niveau, ce sont les effets de vie et de joie qui se produisent autour de nous, à travers nous. Donc ce sont les bons effets de nos comportements sur autrui, sur un groupe et sur un milieu. Donc là nous avons deux thermomètres, si vous voulez, le thermomètre intérieur et le thermomètre un peu plus extérieur, celui des effets que nous produisons autour de nous, qui nous permettent de nous dire « oui, je suis dans une bonne dynamique » ou au contraire, dans une dynamique discutable. Et ensuite, il y a l'union à Dieu, ce milieu divin qui est la Sainte Trinité, notre origine et notre destination. C'est la source, évidemment, de tout le reste, bien sûr. Ce mystère trinitaire dans lequel nous avons été plongés depuis notre baptême et peut-être même bien avant. Et tout cela se réalise en Christ. C'est en lui, le Christ, que les trois unions évoquées à l'instant coïncident parfaitement. C'est donc en lui que nous trouverons progressivement l'unité de notre personne. Donc fixons maintenant notre regard sur le Christ, devenir un en Christ, afin d'apprendre comment lui-même a vécu sa vie affective et sexuelle à travers un célibat assez étonnant. Son art de vivre peut nous inspirer tous, célibataires ou non, équilibrés ou non dans notre affectivité, empêtrés ou non dans notre sexualité. Donc on trouve assez facilement ces trois axes, une recherche de plaisir intense qui au bout du compte vise la béatitude, un bonheur plénier et durable. Ensuite il y a cette union intime avec un autre ou une autre qui se manifeste dans l'étreinte, mais qui vise au-delà de l'étreinte l'alliance au grand sens du mot, c'est-à-dire l'accueil de l'autre dans ce qu'il est, dans son être, et puis la donation de soi-même à un autre ou à une autre. Et enfin, le troisième axe, les trois étant liés, c'est la fécondité sociale, biologique, la soif d'un surplus de vie qui vise l'accomplissement de soi par le déploiement ou le rayonnement de notre être. C'est le contraire du repli sur soi. Alors, chez le Christ, la béatitude visée par le plaisir sexuel, la béatitude, il la trouve dans son expérience intime d'être le bien-aimé du Père. Il y a des moments fulgurants comme celui du baptême, de la transfiguration, vous rappelez ces scènes, celui-ci est mon fils bien-aimé, il a toute ma faveur. Il y a aussi des temps réguliers de prière, parfois la nuit. L'évangile de Luc les note très soigneusement. Et il y a quelques prières explicites qui sont rapportées par les évangiles, notamment dans Luc au chapitre 10 et dans Jean 17, et aussi les paroles du Christ en croix. Sa souffrance et même sa mort sont habitées par cette béatitude. La souffrance de Jésus n'est ni chagrine ni désespérée. Et deuxième axe, il est l'homme des alliances nouvelles. Il y a une dynamique de rupture et d'instauration d'alliances chez le Christ. On le voit relativiser progressivement toutes les alliances naturelles, les liens de la famille, ceux du sang, de la parenté, ceux d'un patriotisme local, ceux de la bienfaisance sociale. Il lui arrive d'échapper aux foules qui réclament une guérison. Mais en revanche, il ne cesse de proposer et d'instaurer des alliances étonnantes en créant Dieu par l'écoute de sa parole, par la conversion du cœur et par une foi confiante. Et ces alliances nouvelles que le Christ instaure sont une manière de surmonter des ruptures et des séparations que nous instaurons assez facilement entre nous, entre les malades et les bien portants, les justes et les pécheurs, les hommes et les femmes, etc., etc. Toutes ces divisions sont surmontées ou surmontables, et le Christ crée autour de lui, finalement jusqu'à une dimension universelle, un réseau où ce qui nous unit, ce ne sont pas les liens du sang, de la chair ou d'autres, mais le fait d'être tous des enfants du même Père. Nous avons prié notre Père tout à l'heure, et bien c'est de cela qu'il s'agissait. Et au fond, toutes ces alliances du Christ se révèlent d'une fécondité prodigieuse, miraculeuse, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, etc. L'être de Jésus possède une telle puissance de rayonnement qu'il suscite et ressuscite la vie en abondance autour de lui. Si nous sommes irradiés par le Christ, nous pouvons nous-mêmes faire deux choses. D'abord, nous exposer de plus en plus à son rayonnement, avec tout notre être, y compris nos plaies et nos maladies spirituelles, nos réussites et nos déroutes. Nos déroutes sont le point d'impact en nous de la puissance d'amour et de guérison du Christ, bien davantage que nos vertus. Et puis deuxièmement, nous pouvons aussi accompagner notre Seigneur et le suivre dans un processus de sublimation christique qui ne sera jamais aussi parfait que le sien, ni vécu de la même manière, mais que le Christ soutient et qui nous propulsera progressivement dans le monde et la joie de Dieu. Voyons maintenant cela à travers quatre rencontres du Christ avec des personnes particulières, et vous invite à faire une double lecture de ces récits, d'abord comme une expérience à vivre. L'expérience à vivre, c'est-à-dire que je m'identifie à la personne que le Christ rencontre, et je laisse le Christ faire pour moi ce qu'il a fait pour telle personne de son temps. Et puis, la deuxième manière d'entrer dans ces récits, c'est de nous mettre cette fois un peu à la place du Christ et de nous demander comment nous pouvons faire comme lui, à notre mesure, bien entendu.